Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec un académicien.
Il a d'abord été ouvrier en Lorraine, puis journaliste, éditeur et même ambassadeur à Malte et à l'UNESCO. Mais il vous dira lui-même que l'essentiel a toujours été dans les livres. L'académicien Daniel Rondeau vient de publier « Le système de l'argent », le troisième et dernier volet d'une trilogie romanesque sur la France d'aujourd'hui. Il y a d'abord eu « Mécanique du chaos », consacré aux banlieues livrées, aux trafiquants et aux islamistes, et puis « L'arrière-pays », portrait d'une province oubliée. Il s'attaque cette fois-ci à la toute-puissance de l'argent, ou comment une poignée d'oligarques financiers tentent de s'emparer de nos territoires et nous priver de notre liberté. 10 ans de travail pour 3 romans, écrits depuis une ferme solitaire en Champagne, non loin de son village natal, où il consacre chaque journée à l'écriture. L'écrivain s'est installé au studio de l'Institut pour nous raconter. Daniel Rondeau est le 16e invité dans l'habit vert. Daniel Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'habitude, pour les portraits en habit vert, on a l'habitude de nous déplacer au domicile de l'invité pour s'imbiber, s'imprégner de son univers, de son lieu de vie. Alors, à défaut d'être chez vous, est-ce que, pour commencer, juste vous pourriez nous partager quelques images, celles qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez spontanément à votre lieu de vie ?
Oui, c'est assez simple. J'ai quitté Paris il y a plus de 25 ans. Pour me consacrer à l'écriture d'un roman qui était dans la marche du temps. Et j'ai acheté une maison qui était une ferme solitaire, en Champagne, tout près de mon village natal, où mes parents étaient instituteurs.
À Ménil-sur-Auger, où vous êtes né.
Ménil-sur-Auger, et tout près du village de mes grands-parents, où vivait encore ma mère. Donc c'est une ferme abandonnée, dans une sorte de grande clairière de défrichement. Nous sommes seuls.
Quand vous dites « nous », c'est avec votre femme.
Ma femme et moi. Bon, je visite de mes enfants de temps en temps. Donc c'est une vie qui est organisée autour du travail. Nous avons, quand je dis « nous sommes seuls », nous avons la visite de toute la faune sauvage des environs, sangliers, chevreuils. Donc voilà, nous vivons dans une certaine solitude et dans l'allégresse, je dirais. Je consacre toutes mes journées au travail. Je commence le matin, je travaille encore l'après-midi. À 4h ou 5h l'après-midi, je suis complètement naze. Il faut que je bouge, donc je fais un peu de boxe tous les jours, je fais de l'entraînement, enfin bon, voilà. Je bouge pour me défatiguer de ma journée de travail.
Et alors, cet endroit, ce paradis, comme vous l'appelez parfois, c'est Commercy, c'est le nom de la commune.
C'est un lieu-dit qui est rattaché historiquement au Commercy de la Meuse.
Au Commercy de la Meuse.
Mais je suis en Champagne.
Alors, on va parler de ce livre que vous avez publié en 2026. Ce livre, Le système de l'argent, il vient clore un cycle que vous aviez commencé avec Mécanique du chaos. En 2017, il y a eu L'arrière-pays en 2021 et puis Le système de l'argent en 2026. C'est une trilogie qui raconte la France actuelle qui est secouée par la mondialisation, dominée par l'argent. Et pourtant, ce qui ressort à la lecture de ces livres, de ce livre, c'est surtout votre attachement si profond pour tous ces territoires, ce terroir français. C'est une déclaration d'amour à la France, en fait, ce livre.
Oui, en fait, comme vous l'avez dit, avec ces 3 livres, j'ai voulu faire une sorte de panorama romanesque de la France d'aujourd'hui. Donc, ça m'a pris 10 ans. Mécanique du chaos, je parlais surtout des banlieues où des narco-trafiquants et des islamistes avaient pris le pouvoir. Arrière-pays, je racontais une province abandonnée, qui était celle où l'Europe était née aux alentours de l'an 1000. Et là, je veux montrer comment un groupe d'oligarques financiers entendent se mettre à contrôler une partie de nos territoires et de nos vies. Donc, en fait, c'est vrai que j'écris, vous avez totalement raison, je me suis aperçu, en publiant ce livre, qu'en fait, j'écrivais principalement sur le peuple et sur mon pays. Mon premier livre, c'était Chagrin Lorrain. C'était un livre sur les ouvriers lorrains que je venais de quitter. C'était une façon, écrire ne nous sépare de personne. Donc, c'était une façon de rester avec ceux que j'avais entre guillemets, abandonné.
Est-ce que vous pourriez juste revenir sur ce qui s'est passé? Vous parlez de ce que vous avez abandonné, qu'est-ce qui s'est passé?
Comme un certain nombre d'étudiants de cette époque, il y a 50 ans, j'étais parti travailler à l'usine.
En Lorraine.
En Lorraine, pour me mettre au service des ouvriers, partager leur vie, leur quotidien, leur pain, leurs soucis. Donc c'était une entreprise assez minoritaire, nous étions quelques centaines ou quelques milliers. Mais c'est quand même pas tout à fait négligeable, comme c'est une aventure à la fois politique et spirituelle. Et bon, naturellement, tout s'est quand même assez mal terminé. Et d'ailleurs, on en reparlera, parce que c'est un des personnages de mon livre, a connu ce même parcours. Mais c'était très important pour moi. Donc j'ai écrit sur les ouvriers lorrains, j'ai écrit sur mes parents et mes grands-parents, les vignes de Berlin, mes parents instituteurs, mon grand-père très modeste ouvrier. Dans la marche du temps, je raconte tout l'itinéraire d'une famille qui est née dans une famille de gens qui travaillent dans la forêt, qui sont des débardeurs de bois, des charbonniers, des bûcherons, qui travaillent sous la canopée, dans l'ombre, qui ne sortent qu'au moment de la moisson pour aller couper le blé dans la fournaise de l'été. Alors là, je vous parle, on est en 1914. Donc, je me suis aperçu que, après, j'écris Ma Champagne, mon pays. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que j'écris, et quand j'écris sur des villes étrangères, Tanger, Beyrouth, Istanbul, Malte, Alexandrie, c'est vrai que je vais souvent chercher ce qu'il y a de France dans ces villes étrangères.
En fait, c'est un peu votre fil directeur, parler de votre amour de cette patrie,
Notre... Oui, patrie, c'est un beau mot, parce que c'est la littérature qui fait d'un pays une patrie. Je suis très attaché à l'Europe. Qu'est-ce qui a fait notre Europe? C'est aussi un des sujets de ce roman. Qu'est-ce qui fait que notre Europe a pu séduire un moment le monde entier? C'est qu'elle ne ressemblait à personne. Elle ne ressemblait à personne, pourquoi? Parce qu'elle avait une fondation spirituelle, les cathédrales et les synagogues. Il y avait la puissance des arts qu'il avait formés, Jean-Sébastien Bach, présent dans mon livre. Et puis, tout cela façonné par l'art du roman, comme l'explique très bien Milan Kundera. C'est-à-dire nous étions en France, principalement, mais aussi en Allemagne, en Italie, enfin dans tous ces pays-là, nous vivions avec quelque chose de très fort qui nous rattachait à l'esprit, que ça soit la spiritualité, que ça soit aux arts, que ça soit à la littérature. C'est aussi ça que j'essaye de, modestement, dans mes romans, d'expliquer et de défendre.
Et vous allez nous le faire entendre, puisque je vous ai demandé de choisir un extrait à lire, tiré du Système de l'argent. Vous êtes prêts?
C'est une lecture qui concerne une nuit que mes deux héros vont passer au Donon.
Ils sortent d'une boîte de nuit.
Et ça marque la fin de leur engagement. En juin 1973, cela faisait exactement 2 ans que l'on était arrivé dans les Vosges. Un samedi, des jeunes des Verreries nous ont emmenés dans une boîte de nuit, le Mirage, installée dans une ancienne maison forestière. Serge n'avait pas pu nous accompagner car il était parti rendre visite à son père, hospitalisé près de Paris. Kiki, légèrement fiévreux, était resté à la maison. Kiki, je précise, c'est un chien qu'ils ont adopté et que les ouvriers appellent Kiki Mao. Nous sommes sortis du Mirage vers 3 heures du matin. Les sapins embaumaient. La nuit était merveilleusement douce. Jean-René m'a dit « Ça sent l'été. On ne peut quand même pas aller se coucher. » Je lui ai proposé d'aller au Donon pour voir le soleil se lever. Le Donon était à 2 heures de voiture. Plus haut sommet des Vosges du Sud, culminant à 1007 mètres, une réputation de montagne magique. Nous sommes repassés à l'appartement prendre une bouteille de whisky, une thermos de café, puis nous avons acheté des croissants chez un boulanger. Une petite route nous a emmenés presque jusqu'au sommet, sans que l'on croise une seule voiture. Nous étions seuls, vraiment seuls. On s'est installé sur les ruines d'un ancien temple romain reconstitué et l'on a sorti du sac nos croissants, le café et la bouteille de whisky. Vers 5 heures, une espèce de vague clarté a balayé les sommets des alentours. Le bavardage des oiseaux a commencé. Un cerf est sorti d'une broussaille de sorbier, non loin de nous, puis s'est éloigné sans hâte. Une première lueur est apparue sur l'Orient. Nous nous sommes levés pour commenter ce que le jour naissant nous permettait de nommer. La plaine d'Alsace, les crêtes de la forêt noire, l'alignement des buts témoins dominés par l'éminence du Honeck, et tout au fond, empoitillé dans la brume, ce que j'identifiais être les Alpes bavaroises. Une légère brise s'était levée et montait des flancs festonnés du Donon. Au même moment, on s'est dit « Ah, dommage que Kiki ne soit pas là !» et on a éclaté de rire. Debout entre les colonnes du temple, nous buvions chacun à notre tour de grandes gorgées de whisky à la bouteille. L'air nous paraissait si pur que nous avions l'impression de respirer avec un masque à oxygène. Le disque du soleil est apparu, entier et rouge, comme si un ressort l'avait propulsé hors de sa boîte. Jean-René l'a salué en déclamant Virgile. Des géorgiques venaient de lui remonter au cerveau. Il bramait, les bras tendus vers le ciel. « Ô soleil ! Ô soleil qui nous ramène ou nous retire le jour, ton disque brille radieux. Qui oserait te traiter d'imposteur ? Toi qui nous avais avertis si souvent que d'obscurs tumultes nous menacent et que couvent soudainement les trahisons. Je me suis dépêché d'applaudir, car je savais capable de me réciter les bucoliques et les géorgiques par cœur, en latin, s'il le fallait. La lumière a déferlé, en nous prenant de pleine face. J'ai senti la chaleur de ses rayons, un picotement doux et agréable sur les joues. »
Merci beaucoup pour cette lecture. Pourquoi ce passage-là, précisément ?
Alors, ce passage du Donon, en fait, je l'aime bien, il fait partie un peu de mes... J'ai quelques passages hautement symboliques dans mon livre. Ça, le Donon, c'est une séquence du début du livre. Mes deux héros qui étaient partis travailler en usine, en fait, ce soir-là, ils comprennent, sans se dire, que cet épisode de leur vie est terminé, et qu'ils vont bientôt abandonner ceux à qui ils avaient promis de rester toujours à côté d'eux. Donc, ces deux personnages, ils ont vécu dans un cadre extraordinaire. Ce sont aussi les paysages qui nous forment, qui nous parlent. Donc, ils ont vécu pendant 3 ans, non seulement dans la fraternité des ouvriers qui les ont adoptés, mais ils ont vécu dans un paysage qui est un paysage avec ses énormes masses de grès, avec ses sommets, avec ses pentes, ses sapins, toute cette végétation magnifique qui est celle des Vosges et de l'Alsace. Et puis en même temps, la vue sur l'Europe lointaine, c'est à la fois une source et c'est en même temps un point de départ.
Il y a cette très belle phrase que vous avez lue, « L'air nous paraissait si pur que nous avions l'impression de respirer avec un masque à oxygène ». Et elle fait écho, elle me fait penser à une question que vous avez eue en tête durant l'écriture de ce livre. Que fait-on de sa vie quand on a respiré à 20 ans l'oxygène de l'absolu ?
Deux questions m'ont habité. La première, c'est à quel moment ce pays magnifique a-t-il commencé à se foutre en l'air ? Bon, ce pays magnifique, la France. Pourquoi ça tourne pas ? Quand est-ce que ça a commencé ? Première question. Je ne donne pas la réponse, mais je donne des éléments. Deuxième question, naturellement, c'est... Et ça s'adresse à tous les gens qui ont eu un idéal, pas uniquement militants gauchistes. Je crois que tout le monde, énormément de gens, pendant leur jeunesse, ils pensent qu'il existe des promesses de la vie et qu'ils vont tenir ces promesses, les promesses que la vie leur fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un idéal. Donc, qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on a respiré à 20 ans l'oxygène de l'absolu ? Bon, c'est une question que je pose à tout le monde, que le roman pose à tout le monde. Pour ma part, vous avez ma réponse.
La littérature.
Notre ciel.
Alors, on va parler des personnages de ce roman, Le système de l'argent, à commencer par le personnage principal, Luc des Anges. Ce personnage principal, il a une proximité assez troublante avec votre propre parcours, Daniel Rondeau. Il a été, comme vous l'avez été, ouvrier, militant, révolutionnaire durant sa jeunesse. Ce personnage de roman, qu'est-ce qui le rapproche et en même temps, qu'est-ce qui le distingue de vous ?
Ce qui le distingue, c'est que nos deux vies n'ont rien à voir. Lui, quand il met la clé de la révolution sous le paillasson, il fait une dépression et ensuite, il va faire du trafic de livres anciens. Donc, tout en se croyant à l'écart du système, dépolitiqué, comme dirait Baudelaire, loin de tout, sans être dupe de rien, en fait, petit à petit, il va se faire dévorer par l'argent. Ce qui explique qu'il va pouvoir se mettre au service de ce super financier.
Jeune trentenaire, voilà. Smith.
Bon, qui va le prendre comme complice en disant « Tu ne crois en rien, tu es quelqu'un de formidable, tu vas pouvoir m'aider. » Donc, ma vie n'a rien à voir avec celle-ci, parce que moi, quand notre jeunesse en usine se termine, je me dis que si je ne peux pas changer le monde, je vais passer toute ma vie à le raconter. Et j'ai consacré toute ma vie à la littérature, c'est-à-dire j'ai toujours vécu dans les livres. Il y a eu quelques épisodes où je me suis échappé comme journaliste. Ça a duré assez peu de temps, finalement. J'avais en tête qu'il fallait que je parte. J'étais éditeur, j'avais créé une petite maison d'édition, Quai Voltaire, puis j'ai dirigé la collection bouquins. Puis enfin, j'étais ambassadeur sans m'être jamais attendu à Malte et à l'UNESCO. Mais à chaque fois, je suis parti. Je suis parti pour revenir chez moi, dans ma solitude, et me remettre au travail, en ayant fait le plein d'émotions, de paysages et de visages différents de ceux que je connaissais. Il faut bien vivre pour écrire aussi. Toutes mes journées, elles se passent dans une sorte de rêverie, parce que je suis en train de penser à mes personnages. Même quand je m'endors le soir, je pense à la première phrase le lendemain matin. Et en même temps, la littérature m'a donné une sorte de discipline face au néant, entre guillemets, qui nous entoure et dont je parle dans ce livre, Le système de l'argent. C'est-à-dire, on ne croit plus en rien, donc ne croire en rien, ça fabrique du néant. Et en même temps, c'est une vraie discipline pour moi, parce que j'ai appris dans les grands écrivains, chez les grands écrivains, chez Flaubert, chez Aragon, chez Giono, Chateaubriand, n'oublions pas Chateaubriand. J'ai appris plusieurs choses. C'est que l'art est toujours un courage et qu'il faut se précipiter dans le livre qu'on est en train de travailler. Il faut s'y précipiter corps et âme. Autrement, on écrit des livres moyens. Donc j'ai essayé, en tout cas, de respecter ces grands principes. Et ça me permet, la littérature, contrairement à mon héros, qui lui est un trafiquant de livres, assez pittoresque d'ailleurs, mais amusant, sympathique, parce que dépressif, parce qu'il sentait bien qu'il avait raté beaucoup de choses. Mais quand j'avais reçu Mario Vargas Llosa à l'Académie française, j'avais cité une phrase de Flaubert que Mario m'avait fait connaître il y a 40 ans. D'accord. Et il m'avait dit « La littérature doit être notre manière de vivre ». Donc voilà, je me suis astreint, la littérature est devenue, depuis ma toute jeunesse, depuis que j'ai embarqué sur mon arche de papier, je continue à bricoler mon arche, et la littérature est pour moi une merveilleuse manière de vivre.
Et ça me fait penser au... Quand vous avez été élu à l'Académie française en 2019, c'est votre consœur, l'académicienne Daniel Sanlev, avec qui vous avez beaucoup en commun d'ailleurs, qui vous avait reçu, elle avait fait un très beau discours. Et dans ce discours, il y a notamment une phrase où elle vous dit, à vous Daniel Rondeau, « Vous n'avez pas entrepris de refaire le monde, monsieur, vous avez renoncé très tôt à l'idée qu'il fallait le changer. » Cette prise de conscience, vous venez de le dire, elle est venue assez tôt. Quand est-ce qu'elle est venue ?
Elle vient quand nous quittons cette période d'usine, si vous voulez.
Dans les années 60, au milieu des années 70 ?
Au début des années 70, quoi. 73, 74.
Quand vous êtes allé travailler dans cette usine.
Bon, et là, nous comprenons que la justice idéale dont nous sommes épris et que nous pensions que nous allions installer dans l'usine en fait, elle n'est pas de ce monde, peut-être. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais, donc, retour à la littérature.
Vous aviez une idée en tête bien précise de ce que vous vouliez faire quand vous avez commencé cette trilogie, il y a maintenant 10 ans ?
Ah, la trilogie, non, j'ai avancé livre par livre. Donc, une fois que j'ai eu traité le problème à la fois des immigrés qui mouraient dans le Sahara, en traversant le Sahara ou la Méditerranée, première tragédie et deuxième tragédie, tragédie de ces gens qui, en banlieue, sont soumis à une loi qui n'est plus celle de la République, mais celle de trafiquants ou d'islamistes. Ensuite, je me suis tourné vers des provinces que les grandes métropoles ignorent ou ne voient pas. Et puis enfin, là, je voulais arriver au système de l'argent, parce qu'il me semble qu'en fait, le processus s'accélère. Ces gens qui sont une minorité, qui détiennent un pouvoir financier et technocratique énorme, plus grand que certains États, sont en train d'essayer d'accaparer une partie de notre territoire et de préparer une sorte de sécession dans notre propre pays. Alors, ils profitent du fait que notre État est faible, que notre souveraineté est souvent mise à mal, que nous avons une dette importante, enfin voilà. Donc, en fait, j'ai avancé pierre par pierre. Je vois où je vais arriver, la fin, je vois le début. Et entre-temps, j'aime bien que certains personnages me surprennent. Donc...
Lesquels ?
Il y en a deux. C'est surtout Luc qui m'a surpris. Quoi.
Pour contextualiser un petit peu, Luc Desanges est donc engagé, embarqué dans cette aventure lancée par ce jeune technocrate...
Oui, il veut privatiser une partie du territoire qui est grand comme un département français,
voilà, c'est ça.
Qui est dans le sud de la France, qui donne sur la Méditerranée. Je n'ai même pas cherché sur une carte, je l'ai inventé. Ce qui m'amuse, c'est que maintenant, beaucoup de gens cherchent sur Wikipédia le Mont Thomis.
C'est vrai ?
Oui. Ouais.
Donc, de toute façon, il va peut-être y avoir un faux article Wikipédia.
Et c'est vrai que pour arriver à ses fins, ce financier va essayer de trouver des complices au Quai d'Orsay, chez des conseillers d'État, qui vont l'aider à structurer son entreprise. Et il va trouver une sorte d'homme de main très habile, très malin, qui connaît très bien le pays, qui connaît la France, qui a vécu et qui ne croit plus en rien, et qui s'appelle Luc Desanges.
Un mercenaire.
Qui devient le mercenaire de ce financier.
Qui est aussi également appelé Lux.
Oui, parce que, en fait, la particularité de cet homme, quand dans le roman, il a plus de 70 ans, et en fait, ce qui caractérise aussi, il va s'en apercevoir, c'est qu'à force de ne croire en rien, il n'a pas vécu, et il est une sorte de somnambule dans sa propre vie, et qu'il n'a jamais aimé. C'est pour ça qu'il va être bouleversé par la rencontre d'une jeune femme, inattendue, en fait, et qui, elle, va être passionnée par sa jeunesse. Et donc, qui va lui poser beaucoup de questions. Mais il lui dit, mais pourquoi ça t'intéresse ? Et en fait, elle le force à réfléchir à ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Et dans le mouvement de ses questions, il va s'interroger sur lui-même et sur sa vie. Et donc, il va, sur la fin de sa vie, assez tard, il va à la fois retrouver un de ses bons camarades de ses 20 ans, Jean-René, qui a suivi un itinéraire complètement différent du sien. Et il va comprendre qu'il a renoncé à une grande partie de... qu'il a bradé son idéal, si vous voulez. Il va être très touché par les gens de ce pays qui va être, que le financier veut privatiser. Parce que quand le financier arrive, il veut construire une administration privée, une police privée, une médecine privée. Il va donner des cartes d'identité aux habitants. C'est leur QR code. Quoi. Donc, il va contrôler la liberté de ces gens. Quelqu'un qui m'a écrit à propos de ce livre m'a dit, c'est très intéressant de voir comment tous les gens de cette région, le Mont Thomis, en fait, le financier veut les priver de leur liberté. Or, leur liberté n'est pas seulement un concept juridique, mais comme le disait Lévi-Strauss de l'Académie française, m'écrit ce correspondant, la liberté, c'est aussi le lien qui peut exister, le lien charnel, qui peut exister entre un homme et un paysage. Or, c'est vrai que tous ces gens qui sont des instituteurs, professeurs, petits artisans, petits patrons de chantier naval, le maire du village, enfin,
sont
des
très Français, ancrés.
Très, des Français ordinaires, quoi. Et brusquement, ils s'aperçoivent qu'on est en train de leur voler leur histoire, leur vie et leur liberté.
Il y a un bandeau rouge sur le livre, reste fidèle à tes rêves de jeunesse. En vous lisant, on sent que c'est pas une évidence, que c'est même quelque chose de très exigeant, presque un combat. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ?
Ma fidélité, c'est les livres. Bon, c'est ma façon de rester fidèle. Donc, il me semble que la littérature est le seul moyen. Là, c'est financier. Aujourd'hui, ils veulent effacer le peuple, ils veulent effacer nos frontières, ils veulent installer un monde sans idéal dont ils se font gloire. Donc moi, si vous voulez, j'utilise le roman pour restaurer, pour faire vivre ce peuple qu'ils veulent effacer. Et je crois que la littérature nous permet d'entrer dans la vérité intime des choses, plus que les essais, à cause des personnages. Si on réussit son coup, hein, naturellement, faut que le roman soit bon. Quand on réussit à faire parler un personnage comme si c'était la vie elle-même qui parlait, dans ce cas-là, on apprend beaucoup de choses sur la situation. Parce que c'est la littérature, c'est le roman qui peut faire vivre la réalité de la vie. Or, on s'aperçoit que de tout temps, il y a des monstres successifs qui s'organisent pour maquiller la réalité de la vie. Au temps de l'Union soviétique, on maquillait toutes les façades des villages où étaient reçus les nobles étrangers communistes venant des pays étrangers, principalement de France. C'est ce qu'on a pour leur montrer de très beaux villages. Une seule des façades était neuve, c'est ce qu'on appelait les villages Potemkin. Il me semble qu'aujourd'hui, chaque époque invente ses monstres, et les monstres de chaque époque se débrouillent toujours pour mettre un vernis très séduisant sur la vie, sur notre vie. Le vernis séduisant aujourd'hui, c'est la toute-puissance de l'argent. C'est l'argent roi, c'est avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire la consommation, enfin bon, donc la négation de tout le reste, la négation de l'esprit, si vous voulez. Donc, c'était pour moi le moyen de faire vivre ces gens qui veulent résister aux exactions d'un financier.
Ce personnage de Luc Desanges qui se retrouve embarqué par ce jeune financier de la tech, Christian Alexander Smith, c'est un jeune trentenaire. Il incarne une élite mondialisée, prédatrice, mais aussi une génération qui est née dans un monde désenchanté. Comment vous, vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui qui grandit avec cet idéal capitaliste ?
Non, mais ce n'est pas que le capitalisme. Mon roman n'est pas un pamphlet anticapitaliste. Mon roman est un roman pour essayer de montrer comment notre société en est arrivée à ne plus croire en grand-chose, à accepter justement l'intrusion de financiers comme cet Alexander Smith et de perdre une partie de sa liberté. Je pense que je regarde la jeunesse comme je regarde tout le monde, en fait. Tout le monde est touché, toute notre société est touchée, toute notre Europe est touchée. Quand je disais que nous avions vécu, que notre Europe, les fondations de notre Europe, c'était les cathédrales dont parlait Duby, les synagogues, le dialogue Rachi-Bernard de Clairvaux, que c'était les arts, notamment la musique, Jean-Sébastien Bach, enfin, et les autres. Puis l'art du roman, c'est quelque chose d'énorme. L'écrivain Sándor Márai, hongrois, qui n'était pas du tout anti-américain, parce qu'il va se réfugier aux États-Unis après un bref séjour à Paris et s'est installé quelque temps à Naples. Il dit à propos des États-Unis, ce sont des gens formidables, mais il leur manque 2000 ans. C'est quoi ces 2000 ans? Bon, c'est ça. C'est Dante, Saint François d'Assise, enfin voilà ce qu'il explique. Donc, nous avions ce trésor. Or, les dirigeants européens, depuis 30 ou 40 ans, ont tourné le dos à ce trésor européen. Donc, ça nous met dans une situation d'appauvrissement spirituel et de grande dépendance à l'argent.
Le chaos, c'est un mot qui revient beaucoup dans votre littérature. On a le sentiment qu'il est partout et beaucoup dans ce livre. Est-ce qu'il y a, selon vous, vous avez déterminé un moment où tout a commencé à basculer, où le chaos est arrivé ?
Je vois qu'aujourd'hui, on vit une époque cruciale. Tout le monde se demande où nous allons, c'est la question. Bon, les gens s'interrogent sur l'état de notre pays, avec raison, et sur l'état du monde, sur l'état du monde en général. Et nous sommes à un an d'une élection présidentielle majeure. Non. Or, on s'aperçoit, je trouve, que tous les dirigeants qui nous ont gouvernés depuis 30 ou 40 ans, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur culture parfois, quelle que soit leur volonté, sont tous arrivés à un point où ils ont le gouvernail, mais ils ne savent plus comment s'en servir. Donc, je pense que depuis 40 ans, il y a à la fois une libéralisation de la finance, l'argent peut circuler très librement, tout ça date d'il y a 40 ans. Il y a eu les années fric, des années 80. Tout le monde peut se laisser séduire, parce que bon, on a tous une tentation d'aimer l'argent. On a tous besoin d'argent, on en voudrait plus. Donc, les années fric ont commencé à travailler notre conscience. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'une petite élite de financiers globalisés, parfois plus riches que certains États, prennent le contrôle d'un certain nombre de choses dans notre pays, avec le financement de ce que j'appelle les gentlemen de Davos, et parfois de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui échappe à tout contrôle démocratique. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un livre anticapitaliste, ce n'est pas un livre contre les riches, si vous voulez.
Non, c'est beaucoup plus subtil que ça.
Donc, notre pays est en train de flotter, et il peut être à la merci de ce genre de personnages que rien ni personne ne contrôle.
Alors, c'est un roman, bien sûr, mais comment vous vous informez, vous, pour saisir les évolutions de cette société française ? Est-ce que vous suivez des analystes, l'actualité en particulier ?
Alors, non, je ne suis pas d'analyste.
Non, pas du tout ?
Non, mais je suis enfermé dans ma maison solitaire et j'écoute l'écho du monde. Bon, tous les jours, je regarde, ça m'intéresse, ça me passionne. Et puis, j'ai des amis un peu dans le monde entier, en tout cas tout autour de la Méditerranée. Donc, et puis tout cela me passionne. Ce qui peut se passer au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Liban, bien sûr, c'est une partie de ma vie. J'ai des amis partout. Et j'ai des amis écrivains dans tous ces pays. Donc, en fait, je n'ai fait aucune enquête, mais j'ai accumulé sans l'avoir réellement voulu. Bon, je crois que je connais assez bien ce qui s'est passé pendant toutes ces années.
Oui, vous avez bien saisi l'atmosphère.
En fait, c'est facile parce que ce sont nos vies que je raconte dans ce roman. C'est la vie d'un certain nombre de Français, ordinaires ou moins ordinaires, depuis 40 ans.
Merci beaucoup, Daniel Rondeau.
Je vous dis merci. Un des plus beaux mots de la langue française. Merci. Plus beau mot de la langue française, s'il te plaît, je t'aime, pardon, merci.
Merci beaucoup, Daniel Rondeau. Je rappelle le titre de votre livre pour les auditeurs qui souhaitent se le procurer. Le système de l'argent, c'est un roman à découvrir aux éditions Grasset. Merci.
En habit vert, rencontre avec un académicien. Les podcasts de l'Institut de France.